Bonjour à tous et bienvenue sur notre podcast. Donc, ce sont Ludovic et Hervé qui reviennent pour vous partager des cas pratiques de transformation. Nous avons décidé donc avec Hervé aujourd'hui d'aller un petit peu plus loin par rapport à l'épisode précédent et de vous partager très simplement deux cas concrets que nous avons vécus. On sort de la théorie, c'est la vraie vie et nous allons débattre sur ce qui s'est bien passé, mal passé. On va vous parler de cas justement qui sont plutôt positifs, plutôt compliqués, et on va essayer d'en tirer quelques enseignements pour être plus efficace dans les projets de transformation.
Merci Ludovic et bonjour à tous. Alors on va commencer par un cas que j'ai vécu à l'époque où je n'étais pas encore mentor. C'était dans mes jeunes années où j'étais banquier et directeur informatique d'une banque à l'étranger. Et je venais d'être nommé et je suis arrivé dans cette banque et j'ai fait un diagnostic en arrivant, comme souvent les nouveaux directeurs informatiques font en arrivant. Et j'ai trouvé une équipe qui dépendait beaucoup de savoirs isolés. Et je me suis dit, tout seul dans mon coin, je me suis dit, eh bien, je vais faire d'une pierre deux coups, faire un gagnant-gagnant. Je vais mettre en place un plan de formation croisée entre les membres de mes équipes, de façon à ce que chacun acquiert des compétences et des connaissances nouvelles, et que, en ce faisant, eh bien, des compétences clés soient également doublées ou backupées, de façon à ce qu'on ne soit pas, en tant que service, à la merci d'une maladie ou d'un départ inopiné. Donc j'ai travaillé avec deux de mes demoiselles à l'époque pour construire un plan, parce qu'ils connaissaient bien les personnes. Et ce plan a été mis en place, présenté aux personnes concernées et mis en place. Eh bien, là, je dois confesser qu'à l'époque, j'étais encore un peu naïf sur la conduite du changement. Je pensais que on pouvait se mettre facilement à la place des gens et de projeter facilement les motivations qui feraient que, ou les intérêts, les bénéfices que ces personnes pourraient voir et qui les motiveraient à suivre. Et en fait, ça a été une expérience un peu décevante parce que, au bout de quelques semaines, eh bien, je me suis aperçu que le programme ne fonctionnait plus. Et quand j'ai essayé de comprendre, j'ai compris un peu plus tard, et j'ai compris avec l'aide de gens qui m'ont expliqué, on ne peut pas décréter la motivation de ces équipes ou de personnes. Il faut d'abord faire l'exercice de se mettre à leur place, de mieux les comprendre, pour ensuite trouver les bons leviers d'accompagnement. Voilà, c'était un petit partage très court sur quelque chose qui m'a beaucoup appris, dont les leçons portent encore aujourd'hui dans mon travail.
Écoute, Hervé, c'est très intéressant ce que tu décris comme situation vécue. Moi, ce que ça m'inspire, c'est un élément un peu théorique que j'avais appris lorsque j'ai travaillé chez KA Partners, qui s'appelle la carte PISE d'analyse des comportements. Et en fait, je pense que si tu avais eu l'occasion d'utiliser cet outil à cette époque-là, tu aurais pu éviter certains écueils et gagner en efficacité. Alors, de quoi s'agit-il en deux mots? PISE, c'est pour dire P pour peut-il le faire, I a-t-il intérêt à le faire, S sait-il le faire, E a-t-il envie de le faire. Donc quand on travaille sur ces quatre axes-là, d'abord en diagnostic par rapport à une situation donnée, et ensuite en se projetant sur comment procéder pour déverrouiller chacun des leviers, alors en l'adaptant évidemment à chaque population, parce que chacun va réagir différemment, alors on se met en situation d'avoir des comportements qui vont permettre de converger vers ce vers quoi nous cherchons à emmener les équipes.
Mais dis-moi, Ludovic, tu as certainement une expérience à partager avec nous aussi.
Écoute, moi j'ai envie de vous partager une expérience que j'ai vécue qui s'est plutôt bien passée, qui s'est même beaucoup mieux passée que ce que j'avais imaginé. C'est une expérience de conseil chez un client des services financiers en B2B2C. Chez qui que j'ai accompagné sur un sujet de transformation, l'objectif étant de briser les silos organisationnels et d'impulser une démarche d'excellence opérationnelle transverse. Alors ces mots un peu sophistiqués, complexes, traduisent quoi? Traduisent un contexte dans lequel les flux interdépartements ne permettaient pas de répondre efficacement et rapidement aux exigences des clients. Pourquoi? Parce qu'il y avait des incompréhensions, des difficultés de communication. par exemple la gestion des avoirs clients impliqués, le service client, la direction financière, la production, la direction commerciale. Et tout ce petit monde avait du mal à communiquer, à se comprendre. Donc j'ai eu la chance de les accompagner pendant 8 mois sur ce sujet. Opérationnellement, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons monté des séminaires off-site, au vert, entre 10 et 60 personnes étaient présentes, ce qui a permis de faire émerger tout un tas de problématiques assez concrètes à adresser. Et la vraie bonne idée était de créer des équipes multiservices pour traiter en autogestion quelques chantiers spot avec une gouvernance très light, un point d'échange mensuel, sachant que ces équipes, ce n'était pas leur métier principal. Elles faisaient ça en plus de leur activité, mais elles étaient hyper impliquées car directement intéressées par ces sujets. Nous avions demandé aux personnes de se porter volontaires. Ceux qui n'avaient pas envie d'y aller, pour répondre au point qu'on a cité juste avant, ceux qui n'avaient pas l'envie du PIS, n'y allaient pas. Donc ça a permis d'écarter cette problématique-là. Le résultat a été très satisfaisant parce que ça a permis un réel décloisonnement des équipes. Je prends un exemple très, très simple. Lors du premier séminaire, nous avons mis ensemble les personnes de ces différents départements. Rien que le fait de se parler de leur sujet en commun, de comprendre ce que fait l'un, ce que fait l'autre, pourquoi tu as besoin de telle information, pourquoi ce point-là est important pour toi, eh bien, ça change tout. Ça crée du lien, ça crée de la compréhension et ça crée de l'efficacité. Et nous avons fini par pérenniser cette démarche d'excellence opérationnelle, pour terminer cette histoire, en créant en interne une cellule que nous avons appelée performance opérationnelle pour assurer la continuité de cette dynamique. Et je vais terminer par un élément de complexité sur ce sujet-là, qui n'était pas facile à adresser. C'était que créer le momentum, ça a été compliqué, mais ça a très bien marché. En revanche, un projet comme celui-ci, sur la durée, c'est pas facile de garder les équipes motivées, même si elles ont l'envie au départ. Et le vrai enjeu, c'est de garder les équipes mobilisées. Et pour être tout à fait transparent, si je prends sur les 10 équipes qui avaient été embarquées au début, on va dire que 7 ou 8 ont permis de vraiment aboutir à un résultat satisfaisant. Et au bout de 6-8 mois, on avait véritablement 4 ou 5 équipes qui continuaient à tourner efficacement. Et nous avons volontairement choisi de ne pas obliger les gens à poursuivre. Ils avaient atteint certains objectifs, peut-être pas tous ceux qui avaient été fixés. Et ok, on s'arrête, vous retournez à votre vie habituelle. Et ceux qui étaient motivés pour continuer à travailler de cette manière-là, on les a accompagnés grâce notamment à cette cellule performance qui avait été créée.
Alors c'est un exemple passionnant. Ça m'inspire un certain nombre de commentaires. Le premier, tu parlais de silos, d'une entreprise qui travaille ou de services dans une entreprise qui travaille en silos. C'est très très fréquent en fait. Je retrouve ça chez beaucoup de mes clients. C'est souvent lié au fait que la pression du quotidien fait que tu as un réflexe naturel de te concentrer sur ton propre tube d'action. Et que ce qui en fait les frais, ce sont les impacts, les interactions avec les autres services ou les autres acteurs des processus dans lesquels tu interviens. Et donc c'est important d'arriver, comme tu l'as fait, à casser ces silos, et c'est tout à fait remarquable. La deuxième chose qui est intéressante aussi dans ton exemple, c'est la dimension de l'aventure humaine. Le sentiment d'appartenance, le sentiment d'avoir du sens dans ce qu'on fait, est souvent associé aussi au sentiment d'appartenir à une aventure humaine qui est belle et qui produit quelque chose de positif. Voilà ce que m'inspire ton exemple. Et qu'est-ce qu'on peut retirer finalement de ce court échange qu'on vient d'avoir?
Alors, je pense qu'on peut retenir 2 ou 3 points. Le premier que j'ai en tête serait de dire, comme tu viens de le dire Hervé, c'est important d'embarquer les personnes concernées dès le départ, mais toutes les personnes, et même les opposants. Parce que les opposants, certes, de prime abord, on va se dire, je ne vais peut-être pas réussir à les embarquer, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas essayer de les embarquer dès le départ, parce que, comme tu évoquais tout à l'heure la stratégie des alliés, c'est important d'embrasser toute la population dès le départ, et ensuite, chemin faisant, on verra ceux qui sont les alliés, les opposants, etc. On va essayer de tracter un maximum de monde, et ceux qui vont s'isoler, soit à un moment donné, vont rejoindre le groupe, Soit ils vont rester isolés, mais ils ne pollueront pas l'avancée du programme de transformation.
Moi, j'ajouterais, si tu le permets, le fait que, alors tu l'as dit, je le redis peut-être autrement, c'est la motivation individuelle, c'est la motivation intrinsèque des gens qui les fait adhérer et qui les fait s'embarquer. C'est une banalité de dire qu'on ne décrète pas la motivation de quelqu'un, c'est la personne qui se motive. Mais la personne va se motiver par des facteurs personnels intrinsèques. Par exemple, le sentiment de progresser, le sentiment de se développer, le sentiment d'appartenance. Je fais partie d'une aventure qui vaut le coup d'être vécue. Donc ça, c'est un facteur important.
Je rebondirai peut-être avec un troisième point, Hervé, si tu me le permets. La motivation est clé, c'est indispensable, c'est vraiment le vrai driver de la transformation. Et je vais revenir sur un point peut-être plus pratico-pratique, qui est la question de la disponibilité de la bande passante. Comment ne pas laisser tomber la mayonnaise faute de disponibilité des équipes? C'est une vraie question qu'il faut se poser dès le départ. Et ça passe notamment par la définition d'objectifs à court terme et évidemment d'être en capacité de détacher les équipes mobilisées et détacher suffisamment sur le projet pour être capable de délivrer les attendus. Donc on a un vrai sujet et ça je le constate chez presque tous mes clients. On veut faire plein de choses, on veut faire plein de choses, on a plein d'intentions qui sont excellentes. Mais on ne se donne pas les moyens et on ne donne pas les moyens à nos équipes de pouvoir y arriver, et pas les moyens purement financiers, mais les moyens de temps des équipes. Les équipes qu'on a réussi à motiver, il faut également leur donner de la bande passante pour qu'ils soient capables de réaliser les éléments pour lesquels ils sont motivés pour faire progresser l'entreprise.
Ben, je te rejoins complètement, et ça relance d'ailleurs une question sur la capacité des équipes dirigeantes ou des décideurs à arbitrer et à renoncer parfois à certaines choses. Mais c'est un autre sujet. Merci à tous en tout cas de nous avoir écoutés. Vous pouvez nous rejoindre en ce qui me concerne sur LinkedIn, Hervé Pénisson, ou sur mon site rvp-conseil.com. Et pour toi, Ludovic.
Et de mon côté, merci également de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Vous pouvez me contactez évidemment sur LinkedIn Ludovic Brouès et mon site web c'est ipanext.com, ipanext.com sur lequel vous retrouverez plein d'informations qui gravitent autour des sujets que nous avons évoqués aujourd'hui. Merci à tous et à très bientôt. Au revoir.